Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs à 13h, jusqu'à 13h, l'info avec Amandine, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous, et à la une, un dealer arraché des mains de la police, ça se passe à Marseille, l'hommage de la nation à Bebel, ce sera jeudi, et puis du foot France-Finlande, ça c'est ce soir à Lyon.
Et juste après le journal, le réalisateur Patrice Lecomte sera avec nous, il est celui qui a réuni Belmondo et Delon au cinéma 30 ans après Borsalino.
La question du jour sur RTL.fr. Justement, pour vous, Jean-Paul Belmondo est-il l'acteur français le plus populaire? Eh bien, vous dites oui, massivement, hein, à 71%. La météo, avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour, Amandine.
Et c'est chaud, très chaud même.
Oui, jusqu'à 37 degrés attendus à Mont-de-Marsan cet après-midi, 35 à Tarbes, Bordeaux, 31 à Montélimar, Lyon, Paris et Brest. La température la moins chaude, si je puis dire ça comme ça, c'est 27 degrés.
Ah oui, c'est pas mal.
C'est pas mal, exactement. Il fait encore très beau cet après-midi, juste un peu plus de nuages sur le Languedoc et une averse, voire un orage en montagne.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction donc Marseille, avec cette opération anti-drogue qui a mal tourné hier. Plusieurs policiers ont été attaqués. Le suspect qu'ils avaient interpellé a même été libéré par un groupe d'assaillants. Étienne Baudieu, vous êtes sur place pour RTL. Racontez-nous, que s'est-il passé ?
Eh bien écoutez, c'était une opération classique, on va dire, une descente comme les policiers en font plusieurs fois par semaine dans les différentes cités marseillaises, avec cet objectif clairement annoncé de désorganiser au maximum les points de vente de stupéfiants. Cette fois-ci, ce sont deux équipages de la BST-14, la brigade spécialisée de terrain, qui se rendent sur un des plans stup de la cité Frévalon, dans le 13e arrondissement, un endroit bien connu, au pied d'une tour, la tour C, au vu au sud de tout le monde, un amas de chaises et de planches en rend l'accès difficile. En tout, quatre fonctionnaires, trois hommes et une femme, ils débarquent et interpellent immédiatement un jeune dont ils sont convaincus qu'il est le charbonneur, celui qui vend la marchandise. Il est menotté dans sa sacoche, 260 euros et 29 barrettes de cannabis. L'un des policiers décide alors de partir à la courette dans leur jargon, c'est-à-dire qu'il tente de courser d'autres dealers dans les cages d'escalier. C'est à ce moment précis qu'une dizaine d'individus en profitent et prennent à partie les trois collègues restés au pied de la tour. Les coups pleuvent, un policier est gravement blessé à la tête, il reçoit un coup de bâton qui nécessitera une dizaine de points de suture. Résultat, le jeune dealer est libéré de force, entre guillemets. Des renforts policiers arrivent rapidement pour sécuriser la zone et interpelle deux autres personnes alors qu'ils se font caillasser. Mais le charbonneur, lui, s'est évaporé, menottes dans le dos, tout comme la sacoche et son maigre butin.
Étienne Baudieu en direct de Marseille pour RTL. Cette attaque intervient trois jours seulement après la visite d'Emmanuel Macron. La preuve, disent les syndicats, qu'il y a besoin de renforts. Bruno Bartossetti est secrétaire zonal du syndicat Unité SGP Police.
Ça aurait pu être beaucoup plus grave et on aurait pu compter des morts dans nos rangs. Malheureusement, j'ai envie de dire que notre quotidien aussi, il est fait de rébellion entre policiers et voyous. Ça démontre bien sûr qu'on les gêne considérablement, on est présent, on rentre dans les cités, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on y va dans les cités. C'est pour cette raison d'ailleurs que je souligne toujours, il faut voir dans quelles conditions. Il faudrait aussi soulever le manque d'effectifs, c'est-à-dire que si le président de la République nous renforce de 300 effectifs, c'est qu'il manquait vraiment pour qu'on puisse travailler en sécurité à Marseille.
Bruno Bartossetti du syndicat Unité SGP Police, joint pour RTL par Guillaume Chiez.
Et ce qui est tout à fait étonnant avec cette histoire, c'est exactement le scénario d'une des scènes de Bac Nord, le film avec Gilles Lellouche.
L'autre grand titre de l'actualité, justement, c'est du cinéma, la disparition de Jean-Paul Belmondo. RTL vous l'annonçait dès ce matin, un hommage national lui sera rendu jeudi, hommage que Claude Lellouche voudrait joyeux. C'est ce qu'il a confié ce matin à Yves Calvi sur RTL.
Écoutez, j'aimerais que ce soit joyeux. J'aimerais que ce soit joyeux pour que ça lui ressemble. Je voudrais pas, il faudrait pas qu'on ait tous des gueules d'enterrement, quoi. Ça serait triste. Ça serait triste et il aimerait pas ça. Vous savez, un jour, il m'avait dit, quand on préparait itinéraire, oui. À un moment donné, je lui ai dit, tu crois en Dieu? Et il me dit, écoute, si Dieu a de l'humour, je crois en lui. Voilà, parce que j'ai aussi, quand je serai là-haut, j'ai très envie de déconner. Voilà. Et donc, s'il a le sens de l'humour, on va bien se marrer.
On espère ce matin en tout cas qu'il déconne. C'était Claude Lellouche sur RTL ce matin. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Alors cet hommage, il sera joyeux ou pas? Qu'est-ce qui est prévu pour l'instant?
Bon, c'est difficile d'être joyeux dans la cour d'honneur des Invalides. C'est pas le meilleur endroit pour ça. Et pourtant, Jean-Paul Belmondo, lui, ne manquait pas de légèreté quand il imaginait à quoi pourraient ressembler ses adieux. Écoutez ça parce que ça vaut vraiment le coup. C'est son ami, l'avocat Michel Godeste, qui nous le racontait ce matin sur RTL.
C'était juste après l'enterrement de Johnny. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que
tu aimerais et tout. Il me dit, oh, je sais pas. Enfin, il disait des bêtises. Puis après, il me dit, si, si, j'ai pensé à quelque chose. Tu vois, j'aurais mon cercueil qui serait emporté par un hélicoptère. Et là, il y aurait un petit trou. Je passerais ma main, puis je dirais au revoir, au revoir, au revoir.
On imagine la scène.
Non, mais ça, ça serait formidable. Ouais. Bah, sérieusement, si. C'est improbable et impossible, sans doute.
Ça
mais
rappelle.
Imaginez, en plus, il y a un hélicoptère.
C'est le Guignolo.
Oui, c'est
quand
le Guignolo.
Il vole au-dessus de Venise.
Exactement. Et même dans Rapide Jacob, je crois que l'hélicoptère se pose dans la cour des Invalides. Mais ça, ça serait formidable.
Bon, a priori, on n'en est pas là. Et le mot-clé, ça sera plutôt simplicité, pas de chichi, certes. Il y a aussi des impondérables pour une cérémonie d'hommage officiel, d'hommage national, la Marseillaise, la marche funèbre, le discours présidentiel. Mais la simplicité, c'est vraiment le souhait de la famille. Les discussions, elles ont lieu en ce moment même, directement entre Paul Belmondo et le couple Macron pour fixer les détails. En plus des invités, d'après nos informations, du public devrait pouvoir prendre place dans les coursives des Invalides, environ 1 millier de personnes. Et pour les autres, ceux qui n'auraient pas de place, un écran géant sera installé à l'extérieur. Notez aussi que les préparatifs sont assez simples puisque les Macron et les Belmondo se connaissent bien et se fréquentent régulièrement depuis 2017. Un autre point, le dernier à trancher, fin de matinée, fin d'après-midi, on n'a toujours pas l'information pour cette cérémonie de jeudi.
Merci beaucoup William Galibert du service politique d'RTL, et les Français sont sans doute nombreux à vouloir lui rendre hommage à Jean-Paul Belmondo puisque les différents films qui ont été diffusés hier sur les différentes antennes ont rassemblé plus de 6,6 millions de téléspectateurs.
Et Patrice Lecomte qui avait réuni Delon et Belmondo dans Une chance sur deux en 1998 sera notre invité dans quelques minutes.
Après les restaurants et les salles de spectacle, le pass sanitaire va-t-il devenir obligatoire en entreprise? Certains patrons le souhaitent et ont d'ailleurs décidé de passer à l'action. C'est le cas de Laurent Levasseur qui dirige une entreprise de téléassistance aux personnes âgées. À partir du 1er octobre, ses employés ne pourront plus venir travailler sans leur contrat de travail, sera même suspendu.
Il semblerait que cette décision soit illégale aujourd'hui. Nous ne sommes pas considérés comme des soignants, mais notre équipe intervient avec des personnes âgées et ils ne sont pas soumis à ce pass sanitaire obligatoire. Je serais le premier malheureux de devoir suspendre le contrat de travail ou la rémunération de certains. Maintenant, c'est aussi l'occasion pour tous des collaborateurs d'entreprise de prendre conscience de notre devoir de prendre soin de personnes fragiles auxquelles nous sommes en contact au-delà de nos propres collègues.
Laurent Levasseur, joint pour RTL par Nathan Bocard. Pierre Herbulot, je me tourne vers vous. Bonjour.
Bonjour.
On est bien d'accord, c'est totalement illégal.
Oui, aucune ambiguïté sur ce point. Hors cas prévu, nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un pass sanitaire. Voilà ce qui est écrit dans la loi votée cet été au Parlement. La sanction est indiquée dans le paragraphe juste en dessous. 1 an de prison et 45 000 euros d'amende. Les cas prévus justement par le législateur, on en a beaucoup parlé, hein. Ce sont pour résumer les secteurs qui travaillent au contact du public, les bars, les restaurants, les cinémas. Il y a une très longue liste sur le site du ministère du Travail, des lieux choisis parce qu'ils présentent, je cite, un risque de diffusion épidémique élevé. La téléassistance n'en fait pas partie, Laurent Levasseur qu'on vient d'entendre risque donc bien d'être sanctionné au pénal, mais aussi au civil s'il va au bout de sa démarche. Un salarié suspendu pourrait très bien l'attaquer en justice. Atteinte à la liberté individuelle, libre disposition de son corps, voire même discrimination. Les motifs sont nombreux.
Pierre Herbulot du service économie de RTL en Afghanistan. À présent, ces coups de feu entendus ce matin à Kaboul. Les talibans ont tiré à plusieurs reprises en l'air pour disperser des manifestants qui s'étaient rassemblés pour dénoncer la répression dans le Panjshir. Wilson Fash, vous êtes sur place pour RTL. La situation devient compliquée pour les journalistes, très compliquée même. Plusieurs se sont fait confisquer leur matériel. Mais vous avez pu assister à des scènes de grande détresse.
Il faut imaginer cette femme qui devait avoir 18 ans, je pense, et qui pointe du doigt un commandant taliban et qui lui hurle de dégager. Il faut voir ce courage, il faut voir le niveau de désespoir aussi qui pousse ces jeunes femmes et ces jeunes hommes à se mettre en danger face à la répression féroce des talibans. Et il fallait entendre les slogans anti-Pakistan, parce que les manifestants accusent le Pakistan de soutenir les talibans, avec des slogans aussi contre les talibans, évidemment, mais aussi des slogans pour le droit des femmes et pour Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud. Alors ces manifestations, aujourd'hui, le point de départ, c'était l'ambassade du Pakistan. Et puis on a vu partout en ville d'autres petites manifestations, des hommes, des femmes qui hurlaient « Je veux ma liberté, je veux ma liberté ». Hurlait un homme à en mourir presque, il était à genoux. Toutes ces manifestations que j'ai pu voir semblaient spontanées et en même temps avaient lieu toutes au même moment à différents endroits de Kaboul.
Le témoignage de Wilson Fash à Kaboul pour RTL.
Peur sur la ville, le foot et
c'est
la France.
De l'équipe.
Exactement, le foot. Mais l'équipe, c'était amusant ce matin parce que l'équipe a repris tous les titres des films de Paul Belmondo.
Alors, ils le font régulièrement à chaque grande disparition, mais c'est vrai que c'est toujours très réussi.
Et peur sur la ville pour le coup, parce que la France contre la Finlande, c'est justifié.
Oui, dernier match d'une série de 3 pour les qualifications, on le rappelle, en vue du mondial l'an prochain. Alors, après 2 matchs nuls, on espère tous un sursaut. Une chose est sûre, il va y avoir de l'ambiance puisque les supporters lyonnais comptent bien fêter dignement le retour de leurs joueurs, Karim Benzema. Frédéric Perruche, vous vous êtes rendu à Bron, dans le quartier où a grandi Benzema.
Pour Sofiane et Hichem, c'est le grand jour, le grand soir. Ils affichent un large sourire à quelques heures de voir jouer leur idole Karim Benzema au Groupama Stadium sur ses terres.
On est très heureux. C'est plein d'émotions, plein de bonheur et qu'il nous monte l'adrénaline, qu'il fait des buts. C'est super, c'est super.
Ça nous fait énormément de plaisir. C'est beaucoup d'émotions, quoi. Karim, allez, Karim. Ça, il va cartonner.
Il va marquer,
ça c'est sûr et certain.
Omar, lui aussi, est ravi et fier de revoir le gamin du quartier en bleu à Lyon.
C'est très chouette parce qu'il est très attendu ici. Il a beaucoup de fans, surtout dans les quartiers où il a grandi. Chaque fois qu'il a l'occasion, il repasse. Il n'a jamais oublié le quartier, les amis, la famille et tout ce qui est autour de la famille.
Et tous espèrent évidemment, comme Louis, que Benzema fera gagner les Bleus, enfin.
Je suis au paradis, là. Voir Benzema revenir à Lyon, ça va lui donner un excès de motivation pour pouvoir pousser l'équipe de France. Quand on joue, on a grandi sous le maillot de l'équipe de France. Je pense que tout de suite, c'est un plus. Il va les faire gagner.
Combien de buts ?
Doublé. Et peut-être triplé s'il y a un pénalty.
À défaut d'un triplé, un but de Karim et une victoire suffirait largement aux habitants de Bron-Terraillon.
Reportage signé Frédéric Perruche pour RTL France-Finlande. Ce sera bien sûr à suivre sur RTL, RTL Foot. C'est dès 20h40. Lyon, où l'on attend aujourd'hui jusqu'à 31 degrés cet après-midi. Il va faire jusqu'à 37 degrés à Mont-de-Marsan, 35 à Bordeaux. Des températures à l'ombre, on le rappelle.
Ça finit par arriver.
On n'a pas eu un été très, très ensoleillé, donc ça fait un peu de bien. C'est dommage que ça arrive à la rentrée.
D'accord, donc pas de plage, rien ?
Pas de plage, non. Le week-end.
Et là, on va rentrer à la canne, on vit là-bas, donc on a un peu de chance.
Ma stratégie, rester à l'intérieur et fermer les volets, voilà. Et boire beaucoup d'eau.
C'est une bonne nouvelle, et on va se rafraîchir, s'hydrater et aller à la plage et profiter un max, quoi.
35 degrés donc cet après-midi annoncé à Bordeaux, à l'ombre, et effectivement c'est plus facile quand on a la plage pas loin. Parole de Bordelais, c'était au micro RTL de Philippe Demarien.
Dans une seconde, Patrice Lecomte, évidemment Jean-Paul Belmondo, Stéphane Boutsock, que vous écoutez avec Vincent Perrault, notamment sur le cinéma depuis hier, parler de Belmondo. On va évoquer la carrière du magnifique, du professionnel de l'As des As. À tout de suite.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Vous savez de quoi on a l'air tous les deux ?
Je sens que vous allez me sortir une image choc. Ça se voit, votre air absorbé.
On a l'air d'être son papa et sa maman, en train de se faire un mouron d'acier. Parce qu'on se demande s'il peut rien lui arriver. Il va pas faire une mauvaise rencontre, parce qu'il risque pas d'attraper froid.
On va faire un marché. Je prends le papa, vous faites la maman. Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Ça va pas ?
C'est avec l'émotion. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis terriblement émotif.
Ouais, c'est le problème de toutes les mamans.
Ça, c'était en 1998. Jean-Paul Belmondo et Alain Delon réunis au cinéma dans Une chance sur deux de Patrice Lecomte. Une première depuis Borsalino en 1970. Bonjour Patrice Lecomte.
Bonjour.
Et merci infiniment d'être l'invité d'RTL Midi. On vient d'entendre cet extrait. Ils étaient heureux de se retrouver sur un plateau de cinéma tous les deux.
Oui, oui, oui. Et ça faisait plaisir à voir. Moi, je me suis régalé, évidemment, à filmer ces deux acteurs mythiques. J'en revenais pas. Tous les matins, je me levais, je me disais, mais je suis en train de faire un film avec Pierrot le Fou et le Guépard. C'est inouï. Enfin, bon, c'était comme une espèce de cadeau incroyable, quoi. Et en tout cas, sur le tournage, entre les prises, pendant les prises, ils étaient très copains, quoi. Comme deux types qui ne sont jamais perdus de vue et qui sont ravis d'être ensemble, comme deux potes. Et je me souviens qu'à l'époque de Borsalino, on avait écrit, les journalistes avaient écrit des choses ineptes, quoi, sur « il compte les gros plans, il est plus en vedette que moi, le point... Enfin, » Mais c'est absurde, quoi. Moi, je n'ai pas vécu ça du tout, j'ai vécu exactement le contraire.
C'est un film très réussi, très tendre, avec Vanessa Paradis, qui joue donc une jeune fille qui s'appelle Alice, et elle ne sait pas qui est son père, c'est où Alain... Delon ou Jean-Paul Belmondo. Mais c'était une commande des deux comédiens. Ils étaient venus vers vous ou c'était vous qui étiez venu vers eux et peut-être a-t-il fallu convaincre l'un avant l'autre ?
Alors non, c'était ni ça ni ça. C'est un producteur que j'aimais énormément, qui s'appelait Christian Fechner, et j'en parle à l'imparfait avec tristesse, évidemment. De toute façon, quand les gens disparaissent et que ce sont des gens qu'on aime, ça rend jamais très gai, n'est-ce pas ? Et c'est Fechner qui m'avait fait venir dans son bureau un jour et qui m'avait dit « Écoutez, Patrice, voilà, je ne ferai ce film qu'avec vous, mais j'ai envie de réunir à nouveau Delon et Belmondo. » Et moi, sans voir plus loin que vous demandez, j'ai dit « Bah oui, bien sûr, super, on commence quand ?» Mais on savait pas du tout ce qu'on allait raconter, qu'est-ce qu'on allait écrire, qu'est-ce qu'on allait faire, mais en tout cas, et j'ai dit à Fechner, mais ils sont au courant? Il m'a dit, laissez-moi faire. Fechner, c'était un prestidigitateur, c'est-à-dire qu'il avait plus d'un tour dans son sac. Alors, est-ce qu'il les avait déjà prévenus? Est-ce qu'il en avait prévenu un en disant l'autre est d'accord et même chose avec l'autre en disant, je ne sais pas.
Ils ont dit jamais. Oui tout de suite, d'après ce que vous savez après ou?
Alors, d'après ce que je savais, je sais qu'ils ont dit oui tout de suite. Un, parce que Fechner était un producteur rassurant, important. C'était pas un petit sauteur, c'était vraiment un grand, grand producteur. Deux, ils ont dit oui parce qu'ils étaient manifestement, et je l'ai constaté tous les jours pendant les 10 semaines de tournage, ils étaient manifestement fous de joie d'être à nouveau ensemble. Et puis, je me la pète 2 secondes et après j'arrête. Ils ont dit oui parce qu'ils se sont dit ce metteur en scène n'est pas trop naze.
Alors justement, Patrice Lecomte, on a retrouvé une archive d'RTL. C'est Belmondo, Jean-Paul Belmondo, qui parle en 98 justement du tournage d'Une chance sur deux. Écoutez ce qu'il dit sur Delon et sur vous.
D'abord, la joie de rejouer avec mon ami Alain Delon. Je continue à le voir. On se voyait entre, mais bon, on n'avait pas rejoué effectivement depuis Borsalino. C'était la joie de se retrouver face à face. Et en plus, c'était drôle puisque le premier jour, on se tapait dessus d'entrée. Donc, c'était bien. Ça mettait la bonne humeur. Et puis, Lecomte, qui met une très bonne humeur sur le plateau aussi. Il est toujours très gai. Et il vous demande des choses très précises, très, très pointilleux. Il veut le texte exact comme il est écrit.
Pointilleux, disait-il de vous.
Oui, enfin, précis, c'est moins... Pointilleux, ça peut être chiant, mais précis, c'est bien.
Stéphane Boutsock.
Patrice, c'est aussi un film, Une chance sur deux, où on parle de l'âge, du temps qui passe, de la transmission. Quand vous les faites tourner, ces deux-là, ils ont plus de 60 ans. Est-ce que c'était un sujet entre eux, justement ?
Alors non, c'était pas un sujet entre eux, mais ce dont je me suis rendu compte, j'ai eu un petit regret rétroactif, c'est que dans le film, ils constatent qu'ils ne sont plus tout jeunes, ouais. Ils ont plus l'âge professionnel, de trucs, bref. Et ils ont l'autodérision pour pouvoir dire est-ce qu'on est encore capable, est-ce qu'on peut encore tenir un flingue à la main, etc., etc. Et avec Serge Friedman, avec qui j'ai écrit ce film et les dialogues notamment, on y a été un petit peu mollo dans l'autodérision parce qu'on avait peur qu'ils le prennent de traviole. Et je me suis rendu compte au tournage qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin parce qu'ils ont un humour sur eux-mêmes, même de long, hein, pardon d'insister en disant même de long, parce que de la part de Belmondo, ça peut sembler naturel, mais de la part de Delon, ça semble surnaturel, mais en fait, l'un comme l'autre, pour pouvoir se moquer de son comparse ou de se moquer d'eux-mêmes, ils étaient champions du monde et on aurait pu vraiment aller plus loin. Et j'ai ce petit regret, mais ça va, le film est bien quand même.
On va marquer une pause, mais c'est vrai qu'il y a de la dérision et moi, j'ai pas revu le film depuis quelques années, mais je me souviens qu'il y a une scène où Vanessa Paradis et Alain Delon sont en train de se moquer de Belmondo qui monte dans une échelle et s'accroche à un hélicoptère, me semble-t-il. À tout de suite, Patrice Lecomte.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Et Patrice Lecomte est toujours avec nous. Il avait réalisé Une chance sur deux en 1998 avec Delon et Belmondo. Nous sommes aussi avec Stéphane Boutsock et toujours avec Amandine. Patrice Lecomte, on a beaucoup parlé de l'homme Belmondo, mais le comédien, l'acteur, quel est le Belmondo comédien que vous préférez ?
Je préfère toutes les couleurs qu'il a su nous donner. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir. C'est-à-dire qu'il y avait un Belmondo décontracté, voire déconneur, léger. Il y avait un Belmondo forcément plus sombre. Je pense au Doulos, le film de Melville, à d'autres films, etc.
C'est pas un film facile à voir aujourd'hui. Par exemple, la jeune génération qui verrait le Doulos, elle peut être déconcertée.
Oui. oui, c'est peut-être parfois pas mal de déconcerter la jeune génération. C'est très possible. Mais juste par parenthèse, juste avant la coupure pub, vous évoquiez le fait que Belmondo, dans le film, dans Une chance sur deux, montait à une échelle de corde balancée depuis l'hélicoptère. Figurez-vous, parce que ça vous ne le savez pas, figurez-vous que c'est Jean-Paul Belmondo qui m'a suggéré de faire cette scène. Il m'a dit, Patrice, à l'époque on se voyait encore, vous ne croyez pas que ce serait marrant si on me balançait une échelle et que je dise, oh non, je ne vais pas encore faire ce truc que j'ai fait 50 fois, et que là-haut dans l'hélicoptère, il se fout de ma gueule en disant, il n'y arrive pas, il monte lentement, il n'a plus la forme, etc. C'est lui qui m'a proposé de faire ça. Moi, j'ai sauté sur l'occasion, évidemment, mais quand je vous disais que j'ai parfois été un peu timide, je n'aurais jamais...
Vous n'auriez pas osé lui proposer ça.
Non, jamais. Mais j'aurais eu tort, puisqu'il était client de ce genre de...
Ah, Patrice Lecomte, j'ai l'impression qu'on a perdu Patrice Lecomte. Il y a beaucoup de témoignages qu'on entend depuis hier, et notamment sur les tournages. Combien Jean-Paul Belmondo... Ah, vous êtes revenu, Patrice Lecomte ?
Je ne suis jamais parti, en fait, mais...
On a une petite coupure.
On vous avait perdu un poil. Sur le tournage, l'amour de Belmondo pour les comédiens se traduisait, paraît-il, par beaucoup d'imitations, Michel Simon, etc.
Ah oui, ça, il aimait bien, il était assez fort. Il était très fort, Michel Simon, c'était vraiment son must. Il faisait très bien Michel Simon, mais il était... comment dire, c'est un cliché, hein, pardon, mais c'était comme une espèce de grand frère un peu déconneur qui passait son temps à, enfin, pas furieusement non plus, mais à faire des blagues, des plaisanteries, à être décontracté, léger, rigolard. Enfin, c'était un plaisir, quoi, parce qu'il était chaleureux. C'est ce que je constatais. Et c'est ce que j'ai dit parfois, c'est que c'est un peu comme si il avait décidé une fois pour toutes d'être sympathique avec la Terre entière pour pas s'enquiquiner sa propre vie. Et alors sans doute, bien sûr qu'il avait des zones d'ombre, des doutes, des noirceurs, des choses moins gaies, mais il voulait pas ennuyer le monde avec ça.
Et sa façon de travailler, sans concentration, paraît-il. C'est-à-dire de faire une blague et puis d'entrer dans une scène plus dramatique, vous l'avez vécu ?
Oui, mais absolument. Mais je pense que cette volonté affichée de ne pas se concentrer, c'est une manière comme une autre de se concentrer. Je veux dire par là que il jouait comme s'il n'avait pas travaillé, comme s'il improvisait, alors qu'en fait c'était un bosseur.
Il travaillait ?
Ah oui, vraiment. On le voyait pas travailler, mais sur le plateau, il arrivait fin prêt. Enfin, c'était un de ses films. C'était un vrai. Évidemment, il connaissait le métier comme sa poche. Il connaissait tout, le cadre, la lumière, les impératifs de la mise en scène. Enfin, il était comme si ce verbe extraordinaire jouait la comédie, comme si ce terme-là, ce verbe jouer, qu'il emportait sur le reste.
Merci beaucoup, Patrice Lecomte. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que vous préparez un Maigret, je crois, en ce moment, et que vous avez tourné.
Il est mieux que préparé. C'est terminé. La post-production est terminée. Ça sort au début de l'année prochaine, au cours du premier trimestre. J'ai pas encore la date, mais on va la trouver bientôt. Et le film s'appelle Maigret.
Avec Depardieu.
Avec Gérard avec Depardieu. C'est évidemment, ça. En effet.
Eh bien, écoutez, on ira le voir.
Et donc, à bientôt.
J'espère. Il y aura au moins vous. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci, Patrice Lecomte. Il n'y a pas un témoignage, Stéphane Boutsock, négatif sur Jean-Paul Belmondo. Il n'y a personne qui a regretté ou de le rencontrer.
Ce qui est fou depuis hier après-midi, ça va faire quasiment 24 heures qu'on parle de la disparition de Jean-Paul, c'est que on est triste, on va se rendre compte.
Mais avec le sourire à chaque fois.
C'est ça, et que la joie, et que tous ceux qui nous parlent de cet homme-là, qui l'ont connu, nous disent oui, il y a eu des choses terribles dans sa vie, il a perdu sa fille, il y a eu son souci de santé, mais jusqu'au bout, et Claude Lelouch nous le disait encore ce matin, il est resté joyeux, il est resté avec la banane, avec peut-être même une envie de refaire du cinéma sous une autre forme. Ça transparaît, et je crois que c'est le plus beau des hommages qu'on peut lui rendre, c'est que cet homme-là a été heureux jusqu'au bout.
C'est un homme de 88 ans, effectivement, qui est parti. Donc, en même temps, c'est vrai qu'après la vie qu'il a eue, ça peut être aussi un départ qu'il faut savoir accepter. Merci, Stéphane. Vraiment, merci beaucoup. On va marquer une pause et puis ce sera le rappel des titres. Le temps qu'il fait, il y a du soleil et Jean-Paul Belmondo aimait beaucoup le soleil.
Et il y en a beaucoup.
Manifestement, c'était quelque chose qu'il appréciait. À tout de suite.